Bonjour à tout le monde. Alors, voilà, j'ai été chargé de présenter, en fait, d'introduire un peu le sujet d'aujourd'hui. RFPP va fêter toute cet après-midi la Commune de Paris avec beaucoup d'interventions et d'activités. Et on m'a demandé si je voulais intervenir sur un sujet et je voulais présenter en fait un ouvrage. Donc je vais faire une présentation d'ouvrage pour commencer. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un ouvrage qui s'appelle « Aux origines de la Commune ». Et cet ouvrage traite du mouvement des réunions publiques à Paris entre 1868 et 1870. Alors on se dit, ça se termine avant la Commune. Mais tout l'intérêt de cet ouvrage est que justement, il nous y amène. Il ne fait que nous y amener. Alors, un peu de présentation sur... On m'entend pas ?
C'est le mariage.
Alors justement, le mariage, on verra que lors des réunions publiques, c'est un sujet de débat et qu'il est condamné par les plus progressistes des orateurs. Ce qui amènera un grand nombre de condamnations pour atteinte à la morale publique. Parce qu'on verra qu'on ne peut pas tout dire dans ces réunions publiques. Alors, sur la nature de l'ouvrage. En fait, l'ouvrage a été publié après la découverte d'un important fonds documentaire qui provient de la préfecture de police de Paris. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, on est sous le Second Empire quand même. Et le Second Empire, il est connu pour être un des plus impitoyables régimes policiers que la France ait connu et détrôné uniquement par celui de Vichy 70 ans plus tard. Mais le régime policier de Bonaparte est une expérience... On nous demande ici d'augmenter la sono. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant ? Je pense que c'est bon. Faut essayer d'éviter le Larsen, c'est tout. Alors... Le régime de Louis-Napoléon Bonaparte est un régime policier, c'est-à-dire que c'est vraiment le régime qui organise la surveillance de la population à un degré très important. Il ne faut pas oublier que c'est le régime de la pleine application du livret ouvrier, pour commencer. Mais il n'y a pas que ça. Le gouvernement exerce un contrôle strict et violemment réprimé sur la presse, par exemple. Et nous sommes toujours sur le coup, et ça c'est très important, nous sommes toujours sous le coup de la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier est une loi qui donc interdit toute coalition ouvrière pour discuter de leurs intérêts communs. Parce que selon la logique libérale bourgeoise, il n'y a pas d'intérêt commun pour les ouvriers. Ils sont chacun des individus face à leur employeur. Comme il se doit, et que la liberté contractuelle est la liberté de contractuer individuellement et non pas collectivement. D'où cette loi Le Chapelier qui outre qu'elle abolissait les corporations, ce qu'on peut considérer comme un progrès, interdisait toute autre forme de coalition, et donc interdisait et le rassemblement et la grève. Et évidemment, on peut compter sur Louis-Napoléon Bonaparte pour maintenir cette loi. Néanmoins, il arrive un moment dans son régime qui quand même essaie de concilier les intérêts de classe. C'est-à-dire que la nature du bonapartisme est de ne pas franchement se prononcer uniquement pour la bourgeoisie. Elle cherche à faire un amalgame et à dire qu'elle est le seul pouvoir en capacité de maintenir l'équilibre des classes. Et donc il faut à un moment donné concéder un peu. Il y a deux concessions importantes que Louis-Napoléon Bonaparte fait à ce moment-là, aux alentours de la fin de son régime, autour des années du milieu des années 60. 1860. La première est une nouvelle loi sur la presse. Alors on pourrait se dire, ah ben ça y est, c'est la liberté. Non, c'est pas la liberté, non. Parce que, comme pour la loi qu'on va voir sur les réunions, c'est une loi qui est encadrée et qui a en fait pour objectif de ramener et la presse, d'une part, pour la loi sur la presse, et les réunions, dans un cadre que l'Empire peut contrôler. Alors quel est le droit qui est accordé ? Alors la loi sur la liberté de réunion est une loi du 6 juin 1868, d'accord, qui introduit en fait une liberté de réunion déclarée préalablement en préfecture, ça vous rappelle sûrement quelque chose, et à laquelle un membre de la police doit pouvoir assister à volonté. On verra comment ça s'applique plus tard. Alors, cet ouvrage, en fait, est assez récent dans l'historiographie de la commune, puisque les archives n'ont été découvertes qu'à la fin des années 70 et l'ouvrage est paru en 1980. Néanmoins, c'est marqué d'une pierre blanche dans l'historiographie de la commune, pour la bonne et simple raison que tous les ouvrages historiques suivants seront obligés de citer cet ouvrage dans notamment la mise en place des organes politiques de la commune, car il y a là un pan extrêmement important de l'histoire de la commune qui se révèle au grand jour à travers ses archives. Alors, je pensais que c'était intéressant de vous lire l'introduction de l'ouvrage, car elle résume bien le contenu, et après je pourrai développer sur quelques éléments qui nous intéressent. Alors, ce travail à trois est né de la découverte de sources inédites concernant les réunions publiques parisiennes à la fin du Second Empire. Ce moment essentiel de la lutte des masses a été jusqu'à nos jours ignoré des historiens. Or, ces documents apparaissent d'une très grande importance pour une approche plus novatrice et révolutionnaire de la Commune de Paris de 1871. Alors, on pouvait franchement se déclarer révolutionnaire chez Maspero en 1980, c'était bien. Hein. Donc, tout l'ouvrage est à l'avenant. Hein. Ils prennent franchement parti, ce qui à l'époque chez Maspero était tout à fait bienvenu. L'étude de ces dernières, donc de ces années, doit donc permettre, en tirant du néant quelques 1000 réunions publiques qui eurent lieu de juin 1868 à mai 1870, de connaître l'organisation que s'étaient donnée les révolutionnaires, leur méthode, qui ils étaient, ainsi que leur rapport avec l'Empire. C'est l'occasion de saisir l'implantation des militants des différents courants socialistes et communistes dans les quartiers de la capitale, tel qu'on peut le retrouver sous le siège de Paris, puis sous la Commune. Ces réunions publiques de 1868-1870 sont déjà des clubs rouges. Nous y verrons que dans le public prolétarien, rassemblant déjà les quelques dizaines de milliers d'hommes qui feront la Commune, l'ambiance est chaque soir plus volcanique. La partie consacrée aux idées des réunions publiques s'attache d'abord à dégager d'une part la critique sociale qui domine en nom du prolétariat contre la bourgeoisie, d'autre part l'analyse politique du bonapartisme et de l'État bourgeois. Ensuite, nous verrons la position des différents courants socialistes, communistes, néo-jacobins, après les avoir définis, en traitant successivement de leurs projets révolutionnaires et des moyens révolutionnaires qu'ils comptent employer pour parvenir à leur objectif fondamental, l'émancipation des travailleurs, de la coopération ouvrière à l'insurrection armée. Tout était sur la table, hein. La dernière partie, qui porte sur les émeutes de 69 et 70, est une tentative pour saisir la liaison entre la propagande révolutionnaire et les mouvements de rue. Ces quatre vagues d'émeutes, aussi mal connues que les réunions publiques, débouchent sur les deux procès contre-révolutionnaires à grand spectacle de la fin de l'Empire, le troisième procès de l'AIT et le procès de Blois. Les affrontements violents de 1869 et 1870 annoncent les insurrections du siège de Paris et de la Commune. Le peuple sort maintenant dans la rue. En conclusion, ce livre sur le mouvement des réunions publiques de 68 à 70 non seulement pourra combler une lacune de l'histoire du socialisme, mais il permettra également au lecteur de savoir que la classe ouvrière, au moment d'expérimenter pour la première fois le pouvoir, avait, en s'appuyant sur une avant-garde, déjà avancé le concept de dictature du prolétariat. Voilà. Alors, je lis cette intro parce que elle nous permet de comprendre un peu le sens de tout le déroulé du livre. C'est néanmoins un livre d'histoire. C'est pour ça que je me permets de vous le lire aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, les livres d'histoire sont peu accessibles, parce que tout est sourcé, les citations sont continuellement explicitées, contextualisées. C'est un long travail. Donc, ce n'est pas forcément une lecture qu'on lit le soir, au coin de son lit. Donc déjà, d'une part, je voulais vous apporter un peu le contenu de cet ouvrage. Le deuxième est qu'évidemment, publié en 1980, ouvrage d'historien chez Maspero, vous imaginez bien qu'il n'a jamais été réédité et qu'aujourd'hui, le retrouver physiquement, en tout cas pour moi, ça a été un vrai parcours du combattant, dans le cadre d'une maîtrise que je faisais en plus sur la commune. Donc j'avais vraiment tous les moyens pour trouver l'ouvrage. Ce n'est pas évident. Et je doute qu'il soit réédité. Voilà, bientôt. Donc, pour beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas forcément envie de faire tout ce travail de recherche, voilà, je voulais vous amener une lecture un peu résumée. Alors, pourquoi est-ce que le 6 juin 1868, l'Empire choisit d'autoriser, sous de nombreuses réserves, le droit de réunion ? Ben, c'est qu'il est un peu pris à la gorge entre toutes les promesses contradictoires qu'il a faites à son avènement. Rappelons que Louis-Napoléon Bonaparte, avant d'être l'empereur Louis-Napoléon, a écrit un livre sur l'extinction du paupérisme. Alors, la rigolade, c'est qu'évidemment, elle sera souvent citée lors des réunions publiques, notamment par les orateurs les plus visés par la police et déjà sous le coup d'avertissement ou de condamnation, parce que de mal y a-t-il à lire l'ouvrage de notre empereur qui traite de l'extinction du paupérisme. Vous imaginez bien l'ironie au moment où c'est lu en 1869-1870 dans la salle, ça rigole pas mal. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais Louis-Napoléon a quand même fait des promesses à la classe ouvrière et notamment, il a, ce qu'il a regretté par la suite, favorisé la constitution de la délégation au premier congrès de l'international, ce qui allait s'avérer être en fait le congrès constitutif de l'international à Londres. Et donc, parce qu'il avait, des sympathies pour le saint-simonisme et même le proudhonisme, parce qu'il voyait surtout l'apolitisme de Proudhon un moyen d'intéresser les ouvriers aux questions sociales sans passer par la politique. Pari manqué, parce que l'international allait rapidement se radicaliser sur des positions plus révolutionnaires de lutte, de soutien aux grèves, de caisses de solidarité internationale. Et donc, bah, évidemment, ça n'allait pas durer, cette lune de miel. Néanmoins, il avait, dans la foulée de son idylle ouvrière, également tacitement autorisé par une loi aménageant la loi Le Chapelier, le droit de coalition. Il avait donc permis qu'au grand jour puissent se déclarer les premières grèves. On dit, mais pourquoi il a fait ça ? Bah, tout simplement avec le même dilemme. Ce qu'on n'autorise pas advient de manière illégale. Les grèves, c'est pas parce qu'il y a eu la loi Le Chapelier que les grèves se sont arrêtées. Au contraire, il y a eu des grèves très violentes, les canuts en 34. Il y a eu des grèves extrêmement réprimées, mais néanmoins, l'illégalité seule ne suffisait pas à interdire les grèves. Or, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des grèves coup de feu qui partaient sans qu'on ait pu les prévoir. Avec des évidemment, sur le coup, avec des cahiers revendicatifs extrêmement faibles, donc très peu de capacité de négociation et des conflits qui devenaient rapidement ingérables. Donc, d'où l'idée d'autoriser certaines formes de lutte collective pour les ouvriers. Et la conséquence logique et un peu inévitable à laquelle Louis-Napoléon a été amené, c'est d'autoriser un certain droit de réunion, d'où la loi du 6 juin 1868. Alors, c'est une loi très, très, très encadrée. Déjà, il faut un certain nombre de signataires qui sont responsables sur leur personne de la tenue de la réunion et qui donc sont condamnables si jamais la réunion tourne mal. Un bureau doit être désigné qui est responsable de la tenue des débats. Et c'est sur ce bureau que s'exerce le contrôle d'un agent de police identifié, envoyé à volonté par la préfecture pour contrôler le contenu des débats. Cet agent de police peut avertir le bureau, lui demander de prendre des mesures et, si cela n'est pas fait, dissoudre la réunion. Et évidemment, vous imaginez qu'un grand nombre de réunions sont dissoutes et un certain nombre de gens sont condamnés. Néanmoins, le mouvement ouvrier s'empare immédiatement des réunions, puisque la première réunion a eu lieu dès le lendemain de la publication de la loi, le 18 juin 1868, au Vauxhall. Alors, pour connaître le Vauxhall, c'est une très grande salle qui est juste à côté de la place du Château d'Eau, qui est aujourd'hui la place de la République, d'accord ? Et qui est un des points névralgiques de la commune. Pour mémoire, c'est au Vauxhall que sera constituée la Fédération de la Garde Nationale. D'accord ? C'est là que se seront élus les statuts en février 1871, lors de la constitution de la Garde Nationale. Donc c'est déjà une salle d'importance. Mais les salles se multiplient. Et c'est un fait là que l'ouvrage prend vraiment son intérêt, car il suit l'évolution des salles qui se répandent en fait depuis le centre-ville où se tiennent les premières réunions organisées sous l'égide des économistes bourgeois, organisées l'égide de la bourgeoisie éclairée qui veut éduquer le peuple. Ces premières réunions donc sont déjà très courues, mais elles s'étendent vers les faubourgs, vers la circonférence parisienne, donc les nouveaux arrondissements parisiens, voire même en banlieue. Benoît Malon, notamment, organise plusieurs réunions en banlieue, en jonction, évidemment, avec les Batignolles, qui est son quartier de sa zone d'activité principale, mais il organise notamment des réunions à Saint-Denis. Et donc cette extension géographique se double en fait de deux phénomènes, la prolétarisation du public et le fait que les réunions échappent petit à petit au contrôle de la police impériale. En se prolétarisant, en fait, le public devient hostile, directement hostile, aux représentants de la loi, ce qui rend son travail de contrôle très difficile et permet de plus en plus au bureau d'aller à l'encontre des avertissements, voire même de continuer la séance alors que l'agent l'a déjà déclaré dissoute. Et la séance continue alors jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre, ce qui n'est pas du tout ce qui était prévu dans la loi. Et ces affrontements réguliers enhardissent les orateurs les plus radicaux, les orateurs ouvriers, qui trouvent leur public et se mettent à déborder le cadre de la loi. Car la loi avait été organisée de manière à ce qu'on puisse débattre de tous les sujets sociaux, mais pas des sujets politiques, ni de la propriété, ni de la religion. Vous imaginez, d'un coup, ça limite. Parce que quand on parle de sujets sociaux, se limiter uniquement au salaire et au chômage et envisager le mariage uniquement sous la question de la nature de l'union civile sans parler du mariage religieux, c'est compliqué, surtout pour des socialistes révolutionnaires. Et donc, petit à petit, la modification et les combats politiques qui ont lieu à l'intérieur des réunions, avec les internationalistes qui s'enhardissent, qui s'emparent en fait du bureau, qui deviennent présidents de séance, qui dirigent des séances, évidemment pas du tout dans un sens qui était prévu par l'Empire, on se retrouve avec la véritable constitution d'une contre-politique et qui se développe et qui même commence à accentuer les débats en son propre sein. Alors, on voit bien ici qu'il y a quelque chose d'un phénomène politique, à la fois de prise en main de réunions par le peuple, qui leur était destiné, hein. C'était clair, dans le but de la loi était de permettre la discussion des problèmes sociaux entre ouvriers, mais pas plus. Or, les orateurs, sur lesquels nous reviendrons, comme je le disais, s'enhardissent et proposent des théories de plus en plus radicales, de plus en plus en phase avec ce que veulent les ouvriers du temps. Alors, ce qui est intéressant, donc, outre les cartographies donc de l'extension dans l'espace, c'est que ce sont les salles périphériques qui, au final, prennent le dessus. C'est-à-dire qu'au moment où les salles centrales, les salles occupées par les néo-jacobins de la bourgeoisie, par des vrais républicains, mais qui ne sont pas du camp des travailleurs, en réalité, ces réunions-là stagnent, se vident relativement, mais on trouve de plus en plus de salles, ce qui est parfois un parcours du combattant, ce qui est expliqué dans le livre, hein. On trouve de plus en plus de salles en périphérie, hein, jusqu'à la fondation de la grande salle de la Marseillaise rue de Flandre par Rochefort, d'accord, qui là permet une véritable expression, hein, de multiples réunions publiques dans lesquelles l'international est comme un poisson dans l'eau. Si on regarde par contre la liste des arrêtés, des personnes qui ont été condamnés pour fait de réunion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté, on va dire, l'ordre du jour, c'est très intéressant parce qu'on se retrouve avec la grande variété des orateurs et des positions qui ont cours dans ces réunions. Évidemment, c'est toujours les plus radicaux qui se font arrêter. Néanmoins, on a Jules Alix, Charles Amouroux, on a une personne qui m'intéresse particulièrement, qui est Louis-Alfred Brionne. Alors, je vais faire une pause sur Brionne parce que c'est quelqu'un qui n'a pas écrit d'ouvrage et qui a été élu seulement au deuxième tour à la commune et qui a refusé d'occuper son poste à cause de la faiblesse de la participation. Et donc, il a été élu au deuxième tour, c'est-à-dire le 16 avril, mais n'a pas pris sa position. Et ce qui est intéressant de ce personnage, il est ouvrier feuillagiste. Alors, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'un feuillagiste ? Non, je pense que c'est quelqu'un qui coud des feuilles artificielles en décoration soit du papier peint, soit carrément des tissus. Je crois que c'est ça. Mais je ne serais pas sûr, et donc je ne peux pas m'assurer. Mais c'est ce type de personnage. Il est défini par la police comme mutueliste, faute de mieux, alors que ses positions varient énormément notamment sur l'individualisme et le communisme, sur la nécessité de la lutte armée. Il n'est clairement pas un proudhonien sur sa position sur les femmes, où il est beaucoup plus progressiste que Proudhon. Mais il part du domaine proudhonien. Mais le français aussi est à l'origine un proudhonien de gauche. Sauf qu'il évolue extrêmement rapidement sur la question des femmes, sur la question de l'international et la lutte armée lui aussi. En fait, il faut voir que ces orateurs... Alors, il me semble que le français, lui aussi, a droit à sa condamnation. Ah non, il est passé à travers. Mais Élie Sagaré, lui, a été condamné. Hein. Donc, qui est considéré comme jacobin révolutionnaire. Vous voyez un peu les différentes personnes qu'on connaît, nous, dans la commune. Ils se caractérisent assez différemment dans leur position politique. Et les débats sont vifs dans ces réunions publiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des réunions qui commencent sous l'égide, on va dire, des vieux républicains. On va dire les vieilles barbes de 48, hein, Garnier-Pagès, ou bien Le Dru-Rollin. Mais très vite, ces personnes, ainsi que les économistes, et les catholiques, et les protestants, et en fait, un grand nombre de gens qui sont plus ou moins, on va dire... pour une charité bien ordonnée, ou bien un système capitaliste régulé, ou en tout cas une attitude bourgeoise vis-à-vis des positions respectives de l'orateur et de la population, on va dire, ils se font progressivement écartés du bureau, écartés de la tribune, et hués et chassés des salles. Restent les jacobins radicaux, les mutualistes proudhoniens, les socialistes de l'international, les blanquistes, qui, eux, ont une conception beaucoup plus offensive de la politique et continuent le travail d'interpellation sur la gauche jusqu'à ce que les radicaux jacobins eux-mêmes soient mis en difficulté et que la force prédominante dans les réunions publiques de la fin de l'Empire soit clairement un socialisme révolutionnaire inspiré des positions de l'international les plus avancées, c'est-à-dire y compris même pas des positions de l'international au début. On parle des positions de l'international prises après les congrès de 68, en faveur de la grève, en faveur du mouvement social actif, politique. Et donc, il y a une décantation qui se fait où même on s'aperçoit qu'à la fin, même les proudhoniens de droite sont en difficulté dans ces mêmes réunions publiques. Et que les gens qui ont pris le dessus... Et donc là, vous voyez, j'ai deux pages de condamnation avec un nombre de membres élus de la commune dans ces condamnations. On est 2 ans avant, hein. Qui est considérable, et un nombre de communards déclarés et membres de la garde, donc la garde nationale et du comité central, qui est lui aussi assez important. Si vous me laissez quelques secondes, je vais vous trouver les chiffres. C'est vraiment très impressionnant. Alors, parmi les orateurs, je le trouverai une autre fois. Donc on a un nombre écrasant de gens qui participeront, soit comme élus, soit comme communards, membres de la garde nationale, soit comme élus de bataillon de la garde nationale, au phénomène de la commune. Et ce qu'on voit en fait, donc, c'est que la commune, ça éclaire énormément sur la création de la commune, sur l'apparition de la commune, cet ouvrage, et c'est pour ça qu'on ne peut plus faire l'historiographie de la commune de la même manière après cet ouvrage. C'est que la commune n'est pas un coup d'éclair dans un ciel serein et elle n'a pas inventé son bagage politique à la prise d'armes. La commune, c'est le résultat d'un long travail de plus de 2 ans d'apparition, de rodage du discours, de montée en popularité, de montée en audibilité de tout le personnel politique d'extrême gauche, quelles que soient ces variantes, qui va jouer le rôle clé et faire passer ses idées, y compris contre le camp républicain bourgeois. Et quand je parle du camp républicain bourgeois, je parle des élus communaux républicains bourgeois, je ne parle pas de Versailles. C'est-à-dire que ce que révèlent ces réunions publiques, c'est que déjà, au moment, à la veille de la commune, un certain nombre de camps étaient tranchés, et notamment... La distinction entre les républicains de 48 qui allaient errer jusqu'à créer le comité de salut public pour trôner sur la commune et les internationalistes qui allaient s'en défier. Et que donc une partie des péripéties politiques de la commune s'explique bien avant, par le travail de discussion politique qui a eu lieu avant. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais introduire un peu l'après-midi par cet ouvrage. parce que ça montre comment un grand nombre de prolongements dont il sera fait état cet après-midi, en fait, sont des réflexions politiques que des forces politiques à l'intérieur de la commune cherchent à faire aboutir, pas des élucubrations ou des idées qui ont été trouvées sur un coin de table. Il y a des débats politiques qui agitent la commune, qui déterminent son profil, une partie de ses prises de position et de ses textes, dans lesquels on peut trouver cet amalgame entre des positions qui sont, je le rappelle juste, la seule chose qui a fait l'unanimité du camp socialiste dans les réunions, c'était l'internationalisme, et donc un début de lutte contre la colonisation, qui a eu droit de citer dans ses réunions publiques de 1868, 69, 70, quand même. Avant la grande phase de colonisation, il y avait déjà une prise de position contre le principe. Et la deuxième idée rassembleuse, c'est bien la commune qui apparaît au cours des réunions et dont le nom est proclamé et l'appel est réitéré tout au long des dernières réunions de cette période. Voilà. Donc je voulais vous partager avec vous un peu cet ouvrage que moi j'ai trouvé remarquable. Et juste pour finir, pourquoi l'intérêt de lire ce type d'ouvrage historique quand on a la patience, un peu les moyens, c'est qu'en fait ça nous replonge dans une époque. Et pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'action politique, c'est comment ces gens ont fait. Et ça, c'est très intéressant, ce détail-là. Voilà, c'est ce que je voulais révéler.
Qui est celui-là qui parle ?
De rien. Donc, juste les trois auteurs, Alain Dalhotel, Alain Faure, Jean-Claude Freiermuth, aux origines de la Commune, le mouvement des réunions publiques à Paris 1868-1870, c'était édité en 1980 chez Maspero.
Ben merci, alors c'est... Merci Bob, Monsieur Bob, voilà qui anime une émission sur Fréquence Paris Pluriel intitulée « Secret de fabrication, mode d'emploi ». Alors c'est vrai, après on aurait pu en revenir aux antécédents également de la révolution de 1848, qui avait quand même marqué les esprits des communards. Alors ce qu'on va faire, un petit rappel, c'est-à-dire que aujourd'hui, Fréquence Paris Pluriel organise cette journée de commémoration vivace et vivante du 150e anniversaire de la Commune. Vous avez d'ailleurs la plaque commémorative ici. Je ne sais pas si vous l'avez bien vue, 1871. Il faut savoir que cette plaque, lorsque vous allez sur Wikipédia, vous trouvez la photo de cette plaque-là sur l'article consacré à la semaine sanglante. Alors là, vous êtes en plein sur un charnier des communards, un des derniers charniers, peut-être un des plus emblématiques de la semaine sanglante. On n'a jamais eu trop le courage, depuis qu'on est là installé en 2009, de gratter, parce que nous ne sommes pas des profanateurs de sépultures. Mais nous avons en mémoire que nous sommes sur une place hautement symbolique. Voilà.